Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Des activistes pour le climat condamnés à des peines de prison ferme au Royaume-Uni et en Suède. En Serbie, des militants pro-démocratie qui boudent l'Union européenne. Et un documentaire sur la grande écrivaine irlandaise Edna O'Brien. Voilà le programme dans Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour, leurs actions militantes spectaculaires pour le climat, relayées par des vidéos, ont fait le tour de la planète. Leur désobéissance civile prend la forme de jets de peinture sur des œuvres d'art ou de perturbations en fanfare de l'espace public. Les organisations comme Extinction Rebellion ou Just Stop Oil en ont fait leur marque de fabrique. Mais cette exposition a un coût, des arrestations et des peines de prison ferme. Depuis le début des années 2000, la législation britannique est de plus en plus sévère. Marie Billon a pu rencontrer ses militants dans le centre de Londres, devant la cour d'appel, en train de statuer sur le sort de 16 militants.
Quand on aperçoit Trudy, un petit bout de femme avec des cheveux blancs coupés au carré, on l'imagine plus facilement dans un salon de thé à l'anglaise que devant un juge. Pourtant, cette femme de 70 ans a bien été poursuivie l'an dernier.
I was arrested for contempt of court.
J'ai été arrêtée pour outrage à magistrat. Et dans ce cas, il n'y a pas de procès. L'affaire est traitée directement par des juges. Il y a eu une audience à la haute cour. J'ai été complètement acquittée de tous les chefs d'accusation. Mais ensuite, le gouvernement a fait appel. Je m'attendais donc à ce que la procédure se poursuive. Mais en fait, il y a eu des élections et le gouvernement a changé. Le nouveau procureur général a abandonné les poursuites contre moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'il s'est rendu compte que j'aurais gagné et qu'il ne voulait pas prendre ce risque.
Trudy avait été arrêtée parce qu'elle tenait une bannière devant le tribunal disant que les jurés ont le droit d'acquitter une personne selon leur conscience. Une manière de dire que le droit de manifester doit être protégé. C'est justement le message que veulent faire passer des dizaines d'activistes devant la cour de justice dans le centre de Londres. Ils sont là parce que la cour d'appel doit statuer sur les appels de 16 personnes, condamnées en tout à 41 ans de prison. Certaines avec des peines de 5 années derrière les barreaux. Tous des activistes environnementaux, poursuivis pour avoir bloqué, occupé des routes ou terrains privés, ou bien avoir lancé de la peinture en direction d'une œuvre d'art protégée par une vitrine. Marie Adams est devant le tribunal ce jour-là. Elle ne fait pas partie de ces 16 accusés, mais elle a été dans le passé reconnue coupable d'obstruction sur un site pétrolier.
Il y a 10 ans, il aurait été inimaginable pour moi d'aller en prison. Mais avec la politisation de la justice et les pressions des compagnies pétrolières et de leurs lobbyistes, c'est devenu une possibilité. Je pense donc qu'il faut en être conscient et qu'il faut savoir qu'être emprisonné est en effet une possibilité.
Face à ces coupables du troisième type, les magistrats reconnaissent souvent qu'ils sont face à des citoyens exemplaires, dit-elle.
Je me demande vraiment ce qu'est devenue la justice aujourd'hui. Que signifie notre système judiciaire quand des gens comme les juges et les magistrats reconnaissent qu'une personne fait preuve de morale et au même moment la condamne pour une action jugée criminelle? Cela prouve pour moi la folie du système.
Finalement, ce jour-là, les juges ont décidé de réduire les peines de 6 des 16 personnes qui faisaient appel, les jugeant disproportionnées. Les peines de 4 ans de prison ferme pour avoir participé à une réunion Zoom pour préparer un blocage sur l'autoroute M25 étaient sans précédent au Royaume-Uni et en Europe. Elles avaient même choqué le rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement.
My name is Sarah Lennon and I'm a spokesperson for Just Stop Oil.
Sarah Lennon est une des porte-parole de l'organisation Just Stop Oil.
Il s'agit de condamnations motivées par des considérations politiques et les individus emprisonnés sont des prisonniers politiques. Je me réjouis donc de ces réductions de peine, mais ce n'est qu'un recul partiel. C'est une bonne chose que le juge ait reconnu que l'arrêt étudié ne fera pas jurisprudence et que les droits de l'homme doivent être pris en compte lors de la détermination de la peine.
Deux lois britanniques en 2022 et 2023 ont consacré la criminalisation accrue des manifestations pacifistes sur l'environnement. La gauche n'a pas renversé la tendance depuis son arrivée au pouvoir l'été dernier. La punition est censée faire acte de dissuasion. Paul Stevens a été policier à Scotland Yard à Londres pendant 34 ans, aujourd'hui retraité. Il est l'officier de liaison de l'association de défense de l'environnement Extinction Rebellion. C'est lui qui parle aux autorités avant toute action.
Quand un policier soupçonne quelqu'un de commettre une infraction, il mène une petite enquête. Il lui demande ce qu'il ou elle fait. Il essaie d'établir son mobile sur place. Mais face aux manifestants, dans la police, les supérieurs disent aux agents de ne pas faire comme ça, mais d'arrêter d'abord les gens et de leur poser des questions ensuite au poste de police, ce qui a pour effet d'empêcher les personnes concernées de continuer à manifester. Et c'est selon moi une interférence disproportionnée avec notre droit de manifester.
C'est le genre de tactique utilisée pour lutter contre le crime organisé violent, dit Paul Stevens. Mais surtout, malgré le durcissement de la législation, il y a peu de condamnations par rapport au nombre d'arrestations. Ce qui est un mauvais signe, dit Paul, car un policier n'est censé arrêter un individu que s'il y a des charges sérieuses. Marley a été arrêté 9 fois, mais il n'est jamais allé en prison.
Certaines fois, j'ai été arrêté puis relâché dans le cadre d'une enquête sans qu'aucune autre mesure ne soit prise. D'autres fois, j'ai été arrêté, jugé et déclaré non coupable. Dans d'autres cas, j'ai été arrêté, reconnu coupable, puis acquitté en appel. La raison en est que je n'enfreins pas la loi.
Marley est un cinéaste, il filme les manifestations, mais est considéré comme un manifestant comme les autres. Un nouveau texte de loi qui crée de nouveaux délits comme couvrir son visage dans certains endroits désignés par la police est à l'étude en ce moment. Selon les activistes, cela limitera d'autant plus le droit à manifester au Royaume-Uni.
Et au pays de Greta Thunberg, les procès pleuvent contre les activistes. Des militants pour le climat traités comme des criminels, selon la citation d'un rapporteur de l'ONU. Le modèle suédois n'est plus ce qu'il était. À Stockholm, Ottilia Ferret.
Quand on parle écologie, c'est le modèle suédois qui a toujours été vanté. Le royaume scandinave a été un des premiers pays au monde à adopter la taxe carbone en 1991. Le pays utilise aussi principalement des énergies renouvelables. 1% seulement des déchets finissent à la décharge, tout le reste est recyclé ou devient du biocarburant. Les exemples ne manquent pas, sauf que depuis quelques années, la Suède est un peu passée de première de la classe à cancre en matière de politique climatique. Et il faut le dire, le vent a commencé à tourner en 2022, au moment de la arrivé au pouvoir de la coalition de droite soutenue par l'extrême droite. La Suède, qui avait de tous les pays de l'Union européenne réduit le plus ses émissions de CO2, voit maintenant ses chiffres repartir à la hausse et aura donc beaucoup de mal à atteindre la neutralité carbone qu'elle s'est fixée pour 2045. Plusieurs subventions environnementales ont été abandonnées et oui, la répression contre certaines actions militantes s'est durcie. Greta Thunberg en a d'ailleurs elle-même fait les frais. Les amendes et les arrestations se sont multipliées et certains ont même reçu des peines de prison. La désobéissance civile ne passe donc plus aussi bien qu'elle le faisait historiquement dans le pays, et toute perturbation publique est plus sévèrement réprimée, à l'image des 2 cas auxquels le rapporteur de l'ONU fait référence. En 2023, une femme a été licenciée par l'Agence suédoise de l'énergie, car elle avait pris part à une manifestation pour le climat, et en 2024, une autre femme s'est vue refuser la citoyenneté suédoise pour avoir elle aussi participé à une manifestation lors de laquelle de la peinture rouge avait été aspergée sur l'aéroport de Stockholm, un acte qu'elle n'a pas commis mais pour lequel elle est tout de même soupçonnée de vandalisme et risque 2 ans de prison.
Quelle suite pour la mobilisation massive en Serbie contre le président Vučić et la corruption du régime. Après 5 mois de mobilisation, les étudiants et les opposants réclament toujours la nomination d'un gouvernement de transition avant l'organisation d'élections. Mais un des traits marquants de ces immenses manifestations est l'absence de l'Union européenne. Au contraire des mouvements de protestation en Géorgie ou en Moldavie, l'Europe n'est pas associée aux revendications pour la démocratie et l'état de droit. À Belgrade, Louis Seyé a cherché à comprendre pourquoi.
Cette journée du 15 mars 2025 est déjà perçue comme la plus importante manifestation de l'histoire de la Serbie. Venus en famille, entre collègues ou entre amis, des foules immenses ont exprimé leur soutien aux étudiants et leur opposition au régime corrompu du président Vučić. Architecte de 31 ans, Tara est venue manifester pour l'avenir de ses 2 enfants.
Je veux que mes enfants grandissent dans un pays meilleur, dans des conditions sanitaires et environnementales meilleures, qu'ils soient libres de se déplacer, qu'ils soient libres de penser et de s'exprimer, qu'ils n'aient pas peur, et que leur vie ne soit pas déterminée par des principes et des attitudes conditionnées par le système corrompu d'une seule personne.
Comme presque à chaque manifestation depuis novembre, les drapeaux serbes flottent au-dessus de cette marée humaine, mais aucun drapeau européen. Une situation qui contraste avec les images des mobilisations plus à l'est en Géorgie ou en Moldavie. Mais pour Nicolas, l'absence du drapeau aux étoiles s'explique par le manque de soutien des dirigeants européens aux aspirations démocratiques des étudiants. Cet informaticien de 32 ans brandit un panneau appelant l'Europe à se réveiller.
Ah. Nous avons un problème concret en Serbie. Tout ce qui se passe avec ce régime et personne ne prête attention à nous. Donc ma pancarte, c'est pour faire bouger les gens, pour changer le regard sur notre pays, ailleurs en Europe. Je ne suis pas content de l'attitude des dirigeants européens. Tout le monde voit que l'on proteste massivement depuis des semaines maintenant et personne ne réagit.
Justice et état de droit, libertés individuelles, élections libres et transparentes, les valeurs que défendent les étudiants serbes depuis des semaines font écho aux fondements démocratiques de l'Union européenne. Le pays est d'ailleurs candidat depuis 2012, mais pourtant les responsables européens sont restés particulièrement discrets sur ce mouvement qui fait trembler le régime autoritaire d'Aleksandar Vučić. Étudiant en histoire, Martin tient une pancarte avec le président serbe déguisé en Louis XVI.
Aujourd'hui, la plupart des gouvernements européens sont de droite. C'est pour cela qu'ils soutiennent ce gouvernement. Mais parmi les manifestants ici, les opinions sont divisées. Il y a toutes sortes de personnes, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, il y a tout. Mais tout le monde a le même objectif, qui est la fin de ce pouvoir.
La société serbe est depuis longtemps divisée entre aspirations européennes et sympathies pro-russes. Pour préserver l'unité des manifestants, les étudiants ont fait le choix de jouer sur la fibre patriotique pour espérer élargir la mobilisation au plus grand nombre. Selon Anna, une étudiante de 27 ans, l'inventivité et la persévérance de ce mouvement profondément démocratique peut servir d'inspiration ailleurs sur le continent.
J'aimerais que l'Europe s'interroge sur l'état dans lequel elle se trouve et que les gens qui vivent dans d'autres pays voient ce qui les dérange dans leur société et qu'ils s'inspirent de notre exemple pour commencer à améliorer les choses dans leur pays. On ne peut compter que sur nous-mêmes pour changer nos sociétés. Personne de l'extérieur ne peut nous aider, mais nous pouvons nous influencer les uns les autres pour changer le monde et pour devenir meilleurs les uns envers les autres.
Ces 10 dernières années, l'image de l'Union européenne s'est considérablement dégradée au sein de la société serbe. Alors que le président Vučić n'a cessé d'attaquer les libertés démocratiques, les Européens sont accusés de privilégier leurs intérêts économiques. Il y a quelques mois, le chancelier Scholz venait ainsi soutenir un projet de mine de lithium largement rejeté par l'opinion.
Pour moi, l'accord qui a été signé aujourd'hui est un accord historique.
Et deux mois après, c'était au tour du président Macron de sceller la vente de 12 Rafales à un régime pourtant ouvertement pro-russe. L'analyste politique Philippe
Les Européens ont certains intérêts avec le régime et ils ont malheureusement fait des deals avec lui. Ils ont conclu un accord stratégique sur le lithium ou d'autres sur la vente d'armes. D'un autre côté, ils ont une vision profondément erronée selon laquelle le président Vučić est un facteur de stabilité dans les Balkans, sans comprendre qu'en fait, un dirigeant autoritaire ne peut pas être un facteur de stabilité durable dans la région. Le seul facteur de stabilité dans les Balkans, c'est une Serbie démocratique dans laquelle le pouvoir change lors d'élections libres et équitables.
Fragilisé après la gigantesque mobilisation de ce samedi, le président Vučić a mis en sourdine ses menaces de répression et appelé au dialogue, mais il a pour l'instant exclu de quitter le pouvoir.
Si les Irlandais ne devaient citer qu'une écrivaine contemporaine, ce serait elle, Edna O'Brien, un monument de la littérature. Elle est décédée l'année dernière. C'est aussi une figure de la contestation dans une Irlande du XXe siècle qui était figée dans le conservatisme et le catholicisme. Un documentaire intitulé Blue Road, The Edna O'Brien Story, vient aujourd'hui lui rendre hommage et il dresse en creux un portrait de l'Irlande d'hier, Clémence Pénard.
Un documentaire déjà légendaire puisqu'on y trouve le dernier témoignage d'Edna O'Brien. La réalisatrice Sinead O'Shea enregistre leur dernière entrevue en avril 2024, 3 mois seulement avant la mort d'Edna. Une discussion sincère pendant laquelle l'écrivaine se replonge dans ses souvenirs et revient sur sa carrière fructueuse, ponctuée de scandales qui n'ont jamais atteint cette artiste libre et rebelle.
Je ne suis pas vraiment sensible aux critiques, car ceux qui me censurent, les évêques, les juges, ce sont tous des hommes.
En 1960, la jeune Edna O'Brien publie The Country Girls, premier tome d'une trilogie au succès fulgurant. On y suit deux adolescentes d'une petite ville de campagne qui fuient le couvent pour Dublin et découvrent les premiers frissons du désir et de l'émancipation. Tout va alors très vite pour Edna. À l'étranger, elle devient la sensation littéraire, propulsée au rang de star. Mais dans son Irlande natale, elle est traitée en paria. Ses livres scandalisent tellement l'opinion religieuse qu'ils sont brûlés. Margaret Kelleher est professeure de littérature anglo-irlandaise à l'université UCD de Dublin.
Oui, The Country Girls a été interdit, mais les gens ont trouvé des moyens de contourner la censure. C'est un livre qui circulait de main en main. Ce qui rend ce roman et ceux qui ont suivi si puissants, c'est leur célébration de la sexualité. Les femmes se prêtaient ces romans entre elles, car dans une société réactionnaire et conservatrice, ils offraient aux femmes une forme d'apprentissage. Edna a donc été censurée par le gouvernement, mais elle a été immédiatement adoptée par les lecteurs irlandais qui faisaient passer clandestinement ses livres depuis l'Angleterre pour les partager avec leurs proches restés au pays.
Depuis l'Angleterre, Edna O'Brien est installée à Londres avec son mari, écrivain lui aussi. Et ce que nous raconte le documentaire Blue Road, c'est aussi cette histoire de misogynie. Ce n'est un secret pour personne, Edna O'Brien a dû attendre bien trop longtemps avant de recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. À l'époque, nombreux sont ceux qui la traitent avec mépris. Le Dublin littéraire est alors une chasse gardée masculine et le plus envieux d'entre eux n'est autre que son propre mari. Comme nous l'explique Rosie Lavin, professeure d'anglais à Trinity.
Pour reprendre ses propres mots, la persécution publique qu'Edna a subie se reflétait aussi intimement dans un mariage très difficile qui s'est effondré dans les années 60 après qu'elle est devenue une écrivaine à succès. Son mari, Ernest Gebler, a certainement joué un rôle dans les critiques négatives de la presse littéraire irlandaise à son égard. Certains affirment qu'O'Brien était une écrivaine dont le talent ne résidait que dans sa culotte, ce qui illustre bien la misogynie profondément vile et sexualisée dont elle a été la cible.
Deux enfants et un divorce plus tard, Edna O'Brien achète une maison à Chelsea où elle organise de nombreuses soirées. Marianne Faithfull, Jane Fonda, Marlon Brando, Paul McCartney, toutes les stars sont de la partie. Mais ça ne l'empêche pas d'écrire, toujours écrire, à raison d'un livre par an. Margaret Kelleher, à nouveau.
Personnellement, je pense que The Little Red Chairs est son chef-d'œuvre. C'est l'un des derniers romans qu'elle a écrit sur les événements horribles de Srebrenica. Un roman sur la banalité du mal et la fascination qu'il exerce. Elle l'a écrit quand elle avait 80 ans. Elle a donc continué à écrire des romans vraiment marquants. Son tout dernier roman publié, Girl, est basé sur des entretiens qu'elle a menés avec des survivantes de Boko Haram au Nigeria.
Et le documentaire met en évidence la longévité de sa carrière, mais aussi les soubresauts de sa vie intime, sa liaison avec un éminent politicien britannique dont le nom reste inconnu, la rupture et ses conséquences sur sa créativité et ses finances, les hauts et les bas, sans règles imposées. C'était la route d'Edna O'Brien qu'elle a tracée à sa manière.
Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site, sur l'application Pure Radio et les réseaux sociaux. À demain.